Cette année, le 8 août, l'humanité a épuisé toutes les ressources renouvelables de la planète, et notamment la nourriture. C'est le jour du dépassement, un jour qui avance inexorablement d'une année sur l'autre à mesure que la population et ses besoins augmentent. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards et demi à peu près. D'ici quelques dizaines d'années, lorsque l'humanité aura dépassé les 10 milliards d'individus, ce jour du dépassement remontera à une année complète et nous vivrons à crédit sur les ressources naturelles de la Terre. Comment nourrir 10 milliards d'êtres humains? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cet avenir encombré en humanité et en individus de notre planète, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio de la méthode scientifique Céline Lenné. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice d'Alim Avenir et experte sur les questions d'alimentation et de consommation. Nous sommes également avec Pierre Feillet. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes directeur de recherche émérite à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, et membre de l'Académie de Technologie et d'Agriculture. Alors, pour commencer, si vous le voulez bien, faisons donc un petit point démographie, puisque on dit voilà, l'humanité va être 10 milliards. Nous sommes pour le moment, nous étions plutôt mi-2015, 7 milliards 300 millions de personnes sur la planète. À quand donc les 10 milliards selon les projections, Céline Lenné?
Oui, alors d'abord, il faut rappeler que là, il s'agit des projections des démographiques des Nations Unies et il s'agit surtout du scénario tendanciel. Mmh. C'est important de le rappeler. Donc, à l'horizon 2050, les dernières prévisions des Nations Unies qui datent de 2015 se basent effectivement sur 9,7 milliards en 2050, avec cela étant une variante basse de 8,7 milliards et une variante haute de 10,8 milliards. Donc, on voit quand même qu'il y a une marge d'incertitude qui est un peu plus de 2 milliards. Mmh. Donc ça, c'est pas anodin. Et derrière ces projections démographiques, il y a aussi des hypothèses sur la fécondité, sur l'espérance de vie. Et il faut savoir aussi que ces prévisions, elles sont réévaluées régulièrement et qu'à chaque fois, on voit qu'il y a aussi des changements importants d'une révision à l'autre.
Ce qu'on peut dire de façon, en tout cas à peu près certaine, c'est qu'on sait quels sont les bassins de population qui vont le plus fortement augmenter et ceux qui vont au contraire stagner ou légèrement régresser.
Oui, tout à fait. Ce qu'on voit, c'est que la moitié de la croissance démographique va se situer en Afrique, également beaucoup en Asie, hein, près d'un milliard de population en plus en Asie à l'horizon 2050, et surtout donc dans les pays en développement, dans les pays les plus pauvres.
Alors, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous posais cette question, c'est que on va parler aujourd'hui un peu des statistiques de la faim dans le monde. Sait-on aujourd'hui combien de personnes souffrent de malnutrition et où elles sont à peu près réparties, Céline Lenné?
Alors, on estime qu'il y a environ 800 millions de personnes qui souffrent de malnutrition dans le monde. Mais il faut aussi rappeler qu'à côté de ça, il y a 2,1 milliards de personnes qui sont en surpoids ou en obésité. Mmh. Donc, il y a quand même plus de deux fois plus de personnes qui sont en surpoids ou en obésité. Ce qui veut bien dire que globalement, on a les moyens de produire, au niveau vraiment mondial, suffisamment pour nourrir tout le monde. Et que le problème de la faim n'est pas seulement un problème comptable.
Oui, Pierre Feillet.
Oui, je voudrais rajouter deux petits éléments. Se rappeler qu'en l'an 1000, on était 300 millions. Et qu'en 1950, on était 2 milliards et demi. 2 milliards et demi en 1950. Et aujourd'hui, on est 7 milliards et demi. Il y a une croissance exponentielle qui, Dieu merci, j'espère, va s'arrêter. Et deuxième point sur lequel je voulais insister, et Cécile l'a dit, l'Afrique va doubler de population. Mmh. C'est-à-dire que le problème, nourrir, passer de 7 milliards et demi à 9 milliards et demi, 10 milliards, on sent que c'est, bon, ça fait 20% de croissance, on dit qu'on va y arriver en 30 ans. L'Afrique, ça va doubler. On va passer de 1 milliard à 2 milliards. Donc le véritable défi, c'est nourrir le monde, mais c'est nourrir l'Afrique.
Et puis, on l'entendait, et c'est intéressant dans ce que vient de dire Céline Lenné, c'est qu'on produit a priori, c'est-à-dire que, pour aller un peu contre les idées reçues, nous savons aujourd'hui produire suffisamment de nourriture pour nourrir l'ensemble de l'humanité. La question n'est donc pas tant comment nourrir 10 milliards de personnes, mais comment bien nourrir 10 milliards de personnes de façon équitable sans totalement détruire la planète, Céline Lenné.
Oui, le problème, c'est de produire là où sont les besoins. Et c'est aussi des problèmes de différence de climat. Et on y reviendra sur, en plus avec l'importance du changement climatique et les impacts que ça va avoir sur les rendements. Donc c'est ça qui est plus inquiétant par rapport à l'avenir.
Ce qu'on entend dans ce que vous nous dites également, c'est qu'il y a une corrélation géographique entre la faim dans le monde, les endroits qui souffrent de malnutrition et les endroits avec les plus forts taux de fécondité et donc d'expansion de la population.
Alors oui, c'est ça qui va être véritablement l'enjeu, parce que aujourd'hui on a déjà des zones, des régions entières qui sont complètement dépendantes des importations pour se nourrir, mais ça aussi c'est relié aux régimes alimentaires et je voudrais déjà aborder la question des régimes alimentaires parce qu'ils ont déjà changé dans les décennies qui ont passé. Ils sont encore en train de changer et ça augmente encore les problèmes d'insécurité alimentaire puisque les personnes, notamment dans les pays africains ou dans des pays, d'autres pays en développement, abandonnent les régimes traditionnels et sont donc de plus en plus dépendants de produits qui sont issus de l'étranger.
Qui sont des produits d'importation. Et d'ailleurs, ça m'amène à cette remarque qui est importante pour l'ensemble de la discussion que nous allons avoir au cours de cette heure, c'est que toutes les projections, et arrêtez-moi si je me trompe l'un et l'autre, toutes les projections qui sont faites justement pour nourrir ces 10 milliards d'êtres humains à la louche à l'horizon de 2050, sont faites sur un modèle nutritionnel occidental. Et voilà. Ça change beaucoup de choses et ça change pas mal de paradigmes.
Ça, c'est très très important, effectivement, parce qu'on entend souvent dire qu'il va falloir doubler la production pour répondre à cette demande qui va exploser. Bon, les vraies projections de la FAO, c'est plus 70% entre 2000 et 2050. Effectivement, les hypothèses qui sont derrière, c'est des hypothèses selon lesquelles les régimes alimentaires des pays en développement vont se rapprocher, il y aura une convergence vers les pays occidentaux, et notamment en ce qui concerne la consommation de produits d'origine animale, donc la viande, les produits laitiers et les œufs.
Bon, ça, on reparlera tout à l'heure hein, de la question de la nourriture carnée, mais Pierre Feillet, sur cette notion de projection du modèle nutritionnel occidental, est-ce que c'est un modèle faussé, ou est-ce que c'est un modèle dont il faut s'écarter, ou est-ce que c'est finalement un modèle relativement probable ?
Dans notre alimentation, il y a différentes composantes. Il y a une composante biologique, une composante culturelle. Bon, on peut parler aussi d'une composante environnementale, une composante économique. Mais si je garde les deux premières, biologique ou culturelle, la composante biologique est à peu près identique pour les hommes du monde entier. Ils ont tous besoin, bon, variable en fonction des conditions de travail, de l'âge, des mêmes quantités de calories. Ils ont besoin tous de proportions à peu près identiques de protéines, de glucides, de lipides, de vitamines, de minéraux. Ça, c'est une constante mondiale. Ce qui peut changer, c'est la manière dont on va présenter ces nutriments. Quels aliments vont les apporter ? Dans tel pays, ça sera surtout du poisson. Dans un autre, ce seront des céréales et des légumineuses. Dans un troisième, ça sera de la viande et du lait. Ça va varier.
C'est-à-dire que les apports nutritionnels sont les mêmes pour tout le monde ?
Sur le plan de la production, il n'y a pas de variable majeure, surtout qu'il y a de grands transferts avec l'internationalisation de l'économie, de grands transferts de produits. On peut donner un chiffre, on ne va pas en donner trop, mais il y en a un quand même qui est frappant. C'est que le monde se nourrit essentiellement de céréales. Blé, dans les pays occidentaux, maïs, beaucoup en Amérique latine, riz, beaucoup dans les pays asiatiques. Et cet ensemble-là, c'est 3 milliards de tonnes. Et il faut qu'on produise 3 milliards de tonnes.
Ce qui n'est pas rien. Pour la population actuelle.
Ce n'est pas rien. Alors, vous savez, il y a des pertes, on pourrait y revenir dessus, mais ce n'est pas forcément aussi important que ce que l'on dit. Mais il faut produire 3 milliards de tonnes de céréales. Ces céréales, elles vont être mangées directement par l'homme, ou bien elles vont servir à nourrir des animaux que l'homme va ensuite manger, avec une certaine perte dans la transformation. Plus forte pour les bovins, par exemple, que pour les poulets. Donc c'est tout cet équilibre qu'il faut arriver à mettre en place et avoir bien en tête que le système alimentaire, hein, celui qui nous nourrit de la terre, de la semence, de l'étable jusqu'à notre assiette, c'est un système extraordinairement complexe. Ce n'est pas simple. Et dire qu'il est complexe, ça veut dire que tous ces éléments réagissent les uns sur les autres. Hein, si j'augmente la production de viande, il va falloir que j'augmente la production de soja pour pouvoir les nourrir. Si j'augmente la production de soja, il va falloir que je libère des terres. Donc je vais peut-être avoir à attaquer les forêts. Si je m'attaque aux forêts, je vais avoir un impact sur le climat. Si j'ai un impact sur le climat, il va falloir que l'agriculture s'adapte. Vous voyez, on est dans un système interactif permanent, ce qui fait que les réponses, ce qui fait que les réponses apportées sont différentes suivant l'idée que l'on se fait de l'importance de ces facteurs.
Je voudrais ajouter encore un peu à ce tour d'horizon deux, trois paramètres qui nous permettront vraiment de mieux appréhender la suite de notre conversation. Tout d'abord, celui donc on parlait de la faim dans le monde tout à l'heure, selon la FAO, la Food and Drug and Agriculture Organization, pardon, 800 millions de personnes souffrent de malnutrition pardon dans le monde. C'est un chiffre qui est en diminution par rapport à l'augmentation de la population.
En proportion, c'est
un chiffre finalement qui a peu bougé depuis 1995.
Oui, déjà, c'est quand même un progrès, effectivement.
C'est-à-dire qu'en 20 ans, alors que la population a augmenté, le chiffre est resté stable, voire a légèrement diminué, puisqu'on était à 850-900 millions. Donc ça veut dire que la faim dans le monde est en régression.
En proportion.
Ce qui veut dire que, quels que soient les types de cultures que l'on puisse, d'agriculture que l'on puisse mettre en œuvre, et que l'on peut critiquer ou ne pas critiquer, ou privilégier ou ne pas privilégier, globalement, les paysans du monde, les agriculteurs, relèvent le défi de nourrir le monde. Et moi, j'ai tout à fait confiance pour que, dans l'avenir, les agriculteurs, suivant des modèles qui ne sont pas uniques, seront capables et continueront à être capables de nourrir le monde. Alors, il ne faut pas l'oublier, parce que nos braves paysans, ils ne sont pas toujours dans des conditions de vie particulièrement faciles. Et on l'oublie peut-être un peu trop souvent, c'est eux qui nous nourrissent, c'est eux seuls qui nous nourrissent, et ils relèvent le défi qui leur est lancé.
C'est Lyonnais.
Oui, pour faire un petit flashback, parce que moi je m'occupe de prospective, mais c'est toujours intéressant aussi de regarder comment on voyait l'avenir dans le passé. Mm-hmm. Et on s'est toujours inquiété de cette question de la croissance démographique. Depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est un débat qui est récurrent, qui est arrivé à plusieurs moments dans l'histoire, et toujours avec des prévisions démographiques qui étaient alarmistes, enfin qu'on considérait comme alarmistes. Un exemple, dans les années 50, on se disait qu'on n'allait jamais pouvoir nourrir 3 milliards d'habitants en l'an 2000. En l'an 2000, on était plus de 6 milliards et on réussissait, bon an, mal an, avec bien sûr quand même des personnes malnutries, comme on l'a dit, on a réussi à nourrir...
800 millions de personnes, c'est pas non plus totalement anecdotique.
C'est
un neuvième de la population, c'est pas négligeable.
Voilà, mais on pensait ne pas pouvoir nourrir 3 milliards d'habitants, on en a nourri plus de 6 milliards, moins effectivement les personnes qui sont malnutries, et qui sont malnutries, encore une fois, pas pour des problèmes véritablement de quantité, mais pour des problèmes d'accès à l'alimentation. Il y a énormément de personnes qui sont dans des zones de conflit, dans des zones qui n'ont pas accès aux aliments aussi pour des raisons de transport, d'infrastructures de transport, de stockage et autres. Et aujourd'hui, c'est plus des problèmes politiques ou des problèmes d'organisation que réellement des problèmes de production agricole. Donc, on voit que dans le passé, encore une fois, pour faire cette rétrospective, entre les années 1960 et 2005, la croissance de la production, en fait, elle a été de plus 145%. Alors, ça ne veut pas dire que ça va continuer comme ça de manière éternelle, parce que quand même, aujourd'hui, on est face à des défis qui sont vraiment différents, et notamment, je pense que le changement climatique peut véritablement changer la donne.
Ça, on va en parler. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Céline Lainé, parce que on a beaucoup entendu, par exemple, que avec le remembrement, avec l'agriculture productiviste, parfois, et certains disent à outrance, on a atteint pour les pays développés un plafond dans ce productivisme pour les grands pays agricoles. Est-ce que c'est le cas, Pierre Feillet? Est-ce qu'on peut continuer à optimiser encore l'agriculture telle qu'on l'a fait les 20-30 dernières années?
On peut certainement l'optimiser, peut-être pas de la même manière. Vous savez, il y a deux grands. En France, on a l'habitude d'opposer deux grands types d'agriculture. Une agriculture intensive, industrielle, à base de pesticides, d'engrais, de semences modifiées. Cette agriculture-là, elle a fait ses preuves, mais elle a eu ses limites. Et chacun est d'accord pour penser qu'elle ne peut pas continuer avec le même logiciel. Et puis, il y a une autre agriculture que souvent on met en avant, qui est l'agriculture biologique, qui respecte l'environnement, qui respecte les pratiques familiales, qui est meilleure pour la santé.
L'agriculture vivrière aussi.
En France, on va surtout, on connaît mieux l'agriculture biologique, c'est celle-là. Et celle-là aussi, elle a ses limites. Pourquoi ? Parce que les rendements, c'est pas formidable. Et le prix, et ceux qui se nourrissent en France avec des produits biologiques savent bien, c'est nettement plus cher. Par exemple, les fruits et légumes, c'est 50-60% plus cher. Donc, de mon point de vue, l'agriculture intensive d'autrefois, qui se poursuit encore, et l'agriculture biologique, ce sont deux schémas intéressants, mais ils vont être remplacés par autre chose. Et dans ce quelque chose, il y aura bien sûr de la technologie, il y aura de la compétence. C'est ce que moi j'appelle, et d'autres donnent d'autres noms, une agriculture, des agricultures durablement productives. Des agricultures, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un seul modèle. On ne va pas cultiver en Beauce la même manière le riz, le blé, qu'un paysan africain va cultiver une autre céréale, le sorgho. Durablement, parce qu'il faut qu'elle permette de s'adapter à l'environnement, mais également d'atténuer l'environnement, et productive, parce qu'il faut nourrir le monde. Et ça, ce nouveau schéma, on peut en discuter, il sera plein des apports de la science.
On va en discuter justement dans quelques minutes. J'ai juste un dernier élément à apporter sur cet examen démographique, qui est un élément aussi qui a son importance quand on parle de nourrir le monde pour 10 milliards d'individus. On imagine qu'on va nourrir un monde qui va ressembler peu ou prou à celui d'aujourd'hui. Or, pas tout à fait. Il s'agit de nourrir un monde qui sera une population plus urbaine, plus riche, et aussi plus âgés. C'est pas tout à fait pareil, Céline Lenné.
Oui, tout à fait. Alors, si on reprend toujours nos prévisions des Nations Unies, qui sont celles qui font référence, en 2050, on aurait 66% de la population qui vivra en zone urbaine, contre 54% environ aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est les personnes qui vont vivre dans les grandes mégalopoles. Ce que ça a comme conséquence en matière d'alimentation, c'est qu'elles ont tendance à changer de régime alimentaire et précisément d'abandonner leurs traditions alimentaires quand il s'agit de pays en développement, par exemple, pour adopter une alimentation un petit peu plus globalisée, sous différentes...
Le fameux modèle occidental dont on
parlait
tout à l'heure.
Voilà, sous différentes, avec bien sûr des variantes selon les régions du monde, mais l'urbanisation a pour conséquence d'accélérer la transition nutritionnelle. Et la transition nutritionnelle, on a repris ce terme justement basé sur les termes démographiques de transition démographique, ça correspond à la diminution de consommation de céréales traditionnelles et l'augmentation de produits d'origine animale comme la viande, les œufs, les produits laitiers, mais également de sucre et d'huile parce que c'est aussi plus de produits transformés. Et c'est ça qui va véritablement avoir un impact sur les besoins futurs. C'est-à-dire que si effectivement les personnes adoptent massivement ces régimes alimentaires, là il va falloir produire beaucoup plus. Mais ce n'est pas une certitude du tout.
Pierre Feillet.
Et ça a une autre conséquence. C'est qu'avec le développement, comme le dit Céline, des mégapoles, il faudra voir un intermédiaire de plus en plus fort entre les producteurs et les consommateurs. Et ces intermédiaires, c'est l'industrie alimentaire. Il faut amener des champs à la ville des aliments bien conservés. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ça, qui est assez amusant. Ce qui s'est passé en Afrique lorsque les villes se sont développées. Il y a un vieux plat traditionnel en Afrique qui est le tofu qui est fait à partir de sorgho pilé. Et dans les villages, les femmes pilaient leur sorgho pour faire ce tofu. Mais ils sont arrivés dans les villes. Alors dans les villes, ceux qui construisaient les grandes barres d'immeubles savaient qu'il fallait pouvoir écraser le sorgho, on a construit des petites cuvettes dans le sol même du plancher. Et à la même heure, les femmes se sont mises à piler leur sorgho. Et il s'est passé un phénomène tout à fait classique que connaissent bien les physiciens, qui est un phénomène de résonance qui fait que, comme tout le monde broyait en même temps, il s'est produit une espèce d'onde qui s'est amplifiée et qui a provoqué des fissurations dans les maisons. Donc il a fallu leur dire, surtout faites pas ça. Et donc l'industrie alimentaire s'est mise à la place des femmes en leur produisant quoi ? Ce qu'on appelait le tofu tout fait. Ils n'avaient plus besoin de l'écraser. Donc c'est un exemple.
La morale de cette histoire, Pierre Feillet.
La morale, c'est que l'industrie alimentaire dans l'avenir sera de plus en plus importante. Et il ne faut pas croire que parce qu'un aliment a été transformé par l'industrie alimentaire, que c'est devenu un poison, comme parfois certains voudraient nous le faire croire.
Céline Lenné, vous êtes moyennement d'accord ?
Non, mais je ne vais pas reprendre Pierre sur cette question-là, mais je veux dire que ça, c'est effectivement un des scénarios. Après, ce que je voulais dire aussi, c'était qu'à côté de ça, il y a d'autres scénarios. Alors, l'urbanisation, ça paraît quand même une tendance qui peut se développer. Après, la question de savoir si ce sera plutôt les mégapoles ou plutôt des villes de taille moyenne et ce qui a son importance. Et après, on voit quand même se développer aussi dans les pays plus riches, entre guillemets, d'autres formes, d'autres circuits de commercialisation, par exemple avec les circuits courts ou d'autres formes d'approvisionnement. Donc, il peut y avoir aussi des évolutions un peu différentes.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Voilà, nous parlons des perspectives de nourriture pour une humanité à 10 milliards d'individus, vraisemblablement aux alentours de l'horizon 2050. Nous en parlons avec Céline Lenné, qui est fondatrice d'Alim Avenir, et Pierre Feillet, directeur de recherche émérite à l'INRA. Puisqu'on a fait un peu, donc, qu'on a posé un peu les bases démographiques et d'évolution, donc, de cette population humaine, dressons maintenant, si vous le voulez bien, un constat, celui, finalement, que nous avons d'ailleurs commencé à faire, des carences de la production alimentaire actuelle, puisque, je le rappelle, selon des chiffres de l'ONU et selon les objectifs du millénaire de l'ONU, hein, une personne sur neuf est soit 800 millions de personnes est en malnutrition ou sous-nutrie dans le monde. Est-ce que, donc, on a bien entendu, hein, qu'il n'était pas question de quantité de nourriture, mais d'accès à la nourriture et à une nourriture et à quelle qualité nourriture. Et il y a trois défis importants que vous avez commencé à relever l'un et l'autre. Le réchauffement climatique, la disposition des terres arables, hein, puisque la terre est limitée, et l'accès à l'eau. Lequel de ces trois périls sur le modèle actuel vous semble le plus important à l'heure actuelle, Céline? Ce sont trois grandes questions.
C'est difficile de les pondérer. Hein. Bon, là, c'est des questions sur la production agricole. Moi, je suis moins spécialiste que Pierre sur ces aspects agronomiques purs. Je pense que le changement climatique, encore une fois, est un enjeu très important parce qu'il touche à la fois la qualité des sols, la ressource en eau, la question des rendements. Enfin, on retrouve les impacts dans tous les domaines. Et puis, malheureusement, le fait que ces impacts vont se faire sentir là où on aurait le plus besoin d'augmenter la production. On parle d'impact positif dans les pays, finalement les pays développés ou des pays des zones comme l'Ukraine, la Russie, qui sont déjà très productives, et puis au contraire des pertes de rendement très fortes dans des zones comme l'Afrique subsaharienne.
On parle de 15 à 20% de réduction de la production agricole liée au changement climatique en Afrique.
Voilà.
Pierre Feillet ?
Oui, le cœur de l'affaire, c'est le changement climatique. Le manque d'eau est une conséquence dans certaines régions du changement climatique. De l'eau, il y en a énormément sur la Terre. Malheureusement, elle est mal répartie, puis il y a beaucoup d'eau douce qui part vers la mer, qu'on va mal utiliser. Mais le cœur de l'affaire, c'est à la fois que l'agriculture diminue son impact sur le changement climatique, c'est l'atténuation des effets, et puis puisse s'adapter. Et c'est là probablement une des priorités de la recherche scientifique mondiale en agronomie, que de prévoir, de faire en sorte que les plantes de demain puissent s'adapter à des conditions différentes de celles d'aujourd'hui, température plus élevée, moins d'eau. Pas partout, Céline le disait. Dans les régions du nord de l'Europe, par exemple, il y aura davantage d'eau. Par exemple, les régions Méditerranée, Afrique, on risque d'en avoir moins. Donc ça, c'est deux grands défis à relever. Et donc, il faut que dès maintenant, les chercheurs de l'INRA, par exemple, l'Institut National de la Recherche Agronomique, ou d'autres organisations dans le monde, ont mis ça à leur agenda. Et pour le faire, ils ont deux grandes approches. D'abord, la génétique. Il est des plantes qui s'adaptent très bien au milieu sec, par exemple, et d'autres qui ne le font pas. Bien, comment faire, par exemple, que le maïs, ou que le blé, qui est une plante qui demande beaucoup plus d'eau que le maïs, contrairement à ce qu'on croit, comment faire qu'il soit plus résistant à la sécheresse? Alors, on peut aller chercher peut-être des gènes de résistance dans d'autres espèces, et puis les introduire dans le blé pour qu'ils soient plus résistants.
Je vous interromps rapidement, Pierre Feillet, est-ce qu'on peut aussi chercher des variétés de graines, de semences, qui sont naturellement, parce que quand on pense génétique, on pense immédiatement organisme OGM, on peut aussi jouer, comme on l'a fait pendant longtemps, sur la sélection des espèces les plus résistantes ou les plus adaptées à l'écosystème dans lequel on veut les exploiter.
Bien sûr, les sélectionneurs de plantes, les généticiens, ont plusieurs cordes à leur arc. Soit, effectivement, rechercher dans des variétés de la même espèce des propriétés que n'a pas la variété la plus productive, par exemple. Prenons le cas du blé. C'est ce qu'ont fait les sélectionneurs depuis les 100 dernières années. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les sélectionneurs? Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Les blés, si vous regardez les tableaux du 19e siècle, ils faisaient 2 mètres de haut. Aujourd'hui, ils font 50 cm. Ils produisaient 10 quintaux à l'hectare. Aujourd'hui, ils en produisent 70 quintaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont récupéré l'énergie en modifiant la plante qui servait à fabriquer les pailles, les chaumes, 2 mètres de haut, pour les réduire à 50. Cette énergie, ils l'ont reprise pour faire du grain. Donc, en fait, ils ont transformé de la paille en grain. Mmh. Par sélection tout à fait traditionnelle. Et donc, aucun des chercheurs qui s'intéressent aux modifications génétiques par voie artificielle nie que la voie du croisement traditionnel est extraordinairement importante. D'ailleurs, est-ce que c'est plus naturel? Non, l'homme intervient de la même manière. Hein. L'homme est intervenu dans tous les cas. D'ailleurs, la nature, vous savez, une petite parenthèse, elle a fait des choses extraordinaires toute seule. Elle a mis 3 milliards d'années, mais elle a transformé une bactérie en l'homme, tout seul, hein, par le fait du hasard.
Okay. On a moins de temps pour arriver à 10 milliards de personnes.
Mais si je prends cet exemple, c'est parce que la critique que l'on fait souvent à ces transformations génétiques en laboratoire artificielles, c'est qu'elles seraient trop rapides. La nature n'aurait peut-être pas le temps de s'habituer à ces modifications. Alors ça, il faut le creuser, on peut en discuter. Mais toutes les voies sont possibles.
Donc vous disiez, la voie génétique, la voie techniciste, entre guillemets.
Oh, techniciste, vous savez, c'est un Français, la famille Villemorin, en 1850, qui a commencé à faire de la sélection pour améliorer la qualité des blés. On trouvait ça tout à fait naturel et personne disait que c'était techniciste. Alors, il y a des voies, bien sûr, beaucoup plus modernes. Et on voit arriver normalement de nouvelles techniques qu'on appelle d'un nom qui commence à émerger dans le langage public, qu'on appelle CRISPR, qui sont de nouvelles techniques. CRISPR-Cas9, qui sont de nouvelles techniques extrêmement précises.
Et qui servent déjà en agronomie. Hein.
Qui commence à peine à arriver, qu'on trouve dans d'autres secteurs. Et je ne vois pas pourquoi on s'en priverait.
CRISPR-Cas9, rappelons-le, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé dans l'émission. Déjà ici, ce sont des ciseaux moléculaires découverts, en tout cas, voilà, optimisés par Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, qui servent donc à découper et à remplacer des brins d'ADN un peu à volonté dans n'importe quel type d'organisme. Ça, c'était donc la première voie. La seconde voie, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, Pierre Feillet.
Ben, la voie aussi, c'est d'adapter. Il faut continuer à adapter la plante à son milieu. On est parti d'un système dans l'agriculture productiviste, intensive, où on laissait un peu la plante telle qu'elle était, et puis on lui apportait par l'extérieur des engrais, et puis pour lutter contre les maladies, des pesticides. La plante, hein, ayant ça en tête, pour qu'une plante pousse, il lui faut recevoir un certain nombre de produits. Il faut la lumière du soleil pour la photosynthèse qui va transformer le gaz carbonique en sucre. Mmh. Il lui faut du gaz carbonique. Remarquons d'ailleurs qu'avec le changement, avec l'accroissement de la quantité de gaz carbonique dans l'air, c'est plutôt bénéfique à la croissance des plantes. Et alors, gaz carbonique, soleil, photosynthèse, et puis ça va nous faire des sucres. Et puis il lui faut également faire des protéines et des graisses, donc il lui faut de l'azote, il lui faut du phosphore, il faut du potassium, et ça on va trouver dans le sol. L'une des grandes voies de recherche, les deux grandes voies de recherche, c'est d'une part d'améliorer le système photosynthétique, par exemple en mettant les feuilles plus à plat. Ça va être des récepteurs de soleil plus efficaces. Ou bien en changeant les voies de transformation du gaz carbonique en sucre. Le maïs est plus efficace que le blé pour faire ça. Donc pourquoi pas essayer un jour de transférer la voie du maïs dans le blé. Et puis au niveau du sol, on est en train de découvrir, on savait déjà que le sol est plein de micro-organismes, mais on a des techniques aujourd'hui pour l'étudier. Et donc les chercheurs sont en train de beaucoup mieux comprendre quelle est la relation qui se passe entre les racines de la plante, le sol et les micro-organismes du sol. Mmh. On sait déjà aussi des choses là-dessus. On sait par exemple qu'il y a des plantes qui sont capables de fixer l'azote de l'air, ce sont les légumineuses, grâce à une bactérie qui est dans le sol. Et il y a une association qui se fait.
C'est le microbiote des plantes. On a beaucoup parlé aussi ici du microbiote, mais les plantes, elles aussi, ont un microbiote qui les aide énormément dans les racines.
Et le graal des agronomes, c'est d'arriver à transférer chez le blé cette propriété qu'a le soja ou le petit pois de fixer l'azote de l'air. Plus besoin de nitrate, avec des rendements supérieurs. Mais pour ça, il faudra de l'énergie. Donc en même temps, améliorer la photosynthèse. Donc c'est tout un champ sur lesquels on s'investit, on a des pistes, commence à y avoir des résultats, pas beaucoup, mais quand on sait le nombre d'équipes dans le monde qui travaillent là-dessus, bien oui, on va arriver. Mais il faut prendre le problème dès maintenant pour qu'en 2050 ou 2100, nos nouvelles plantes soient là.
Ça c'est ce que vous dites et ce que vous venez de décrire et ce qui est passionnant, c'est effectivement le champ de la recherche en agronomie sur l'optimisation des semences, des plantes, les modifications génétiques et donc finalement avec pour objectif d'apporter sur différents sols des plantes qui sont optimisées pour les sols sur lesquels elles se trouvent et pour l'écosystème qu'elles vont intégrer. Il y a l'autre voie, celle à laquelle j'aimerais vous amener, puisque ce sont vraiment, enfin, quand on travaille effectivement sur cet avenir de l'agriculture au niveau mondial pour nourrir une population de plus en plus nombreuse, beaucoup de voix qui sont contre, pour des raisons que nous ne débattrons pas ici aujourd'hui, les OGM, etc., revendiquent, elles, au contraire, la transition vers des polycultures, privilégier la petite échelle, la voie vivrière, et rappellent que, encore aujourd'hui, hein, l'agriculture familiale assure 75% mm-hmm. des besoins mondiaux. Il y a toute une voie de recherche dans ce secteur-là, qui est l'autre pan qu'il faut exploiter, ou en tout cas interroger, pour assurer les besoins en alimentation dans les années à venir.
Je partage totalement cette analyse. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut développer des agricultures durablement productives. Il n'y a pas qu'un seul modèle. Et l'agriculture paysanne, eh bien, elle doit également faire appel au progrès technique. Il n'y a aucune raison que le progrès technique ne puisse intéresser que les pays développés et que les pays en développement, il faudrait qu'ils restent avec les semences d'autrefois, avec les méthodes culturelles d'autrefois. Ça ne marchera pas. Il faut donc, là aussi, et ça existe, on a un organisme en France qui s'appelle le CIRAD, qui est le Centre de Recherche pour le Développement, l'Agriculture pour le Développement, qui travaille beaucoup en Afrique, en Asie, qui s'est donné ça pour mission. C'est de faire en sorte que... On ne va pas casser l'agriculture paysanne qui fait vivre un tas de personnes. Il faut simplement leur donner des moyens récents et l'accès au progrès scientifique, technique, pour avoir une agriculture paysanne de meilleure qualité, plus productive.
Que dire alors à ce moment-là à beaucoup de gens dans la filière écologiste notamment, qui disent qu'il faut justement en finir avec ces nouvelles semences et revenir à des semences traditionnelles, c'est-à-dire respecter des cultures biologiques, en biodynamie, c'est-à-dire reconstituer des écosystèmes originaux plutôt que de chercher à tout prix à les modifier. C'est vrai, c'est une impasse selon vous en termes de productivité, Pierre Feillet ?
Je les entends. Bon, je respecte bien sûr leur point de vue. J'ai un peu de mal à y adhérer. Quand je vous disais tout à l'heure que c'était grâce au progrès de la génétique et de mes collègues de l'amélioration des plantes, que alors que la production de blé en France était restée pratiquement constante du temps des Romains à la fin du 19e siècle, à peu près 10 quintaux, 8 quintaux, et qu'aujourd'hui on est passé à 70 quintaux, il s'est passé quelque chose, et il s'est passé quoi ? Pour la moitié, le progrès génétique, pour la moitié, le progrès agronomique. Et vouloir dire, je vais revenir aux semences du début du XXe siècle, je ne sais pas si il faut revenir du train à la carriole et à la diligence. J'en suis pas certain. J'ai un peu de la peine à comprendre parce que les arguments scientifiques sont rarement avancés. Je respecte parfaitement une vision du monde et de l'agriculture qui peut être contre le progrès, qui peut être contre la croissance. On entend ça. Ben, les gens qui le pensent, ils s'en sont convaincus et je respecte leur point de vue. Ça m'inquiète un peu quand même pour l'avenir de la manière dont on ira le monde.
Mais aujourd'hui, oui, je voudrais poser la question à Pierre, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi pas mal de pistes de recherche autour de l'agriculture écologiquement intensive. Vous appeliez oui, ça tout ça. À l'heure autrement. Et je pense notamment, là, on en a pas mal entendu parler, l'initiative 4 pour 1000, justement, pour répondre au changement climatique avec donc un certain nombre de pratiques agronomiques, comme le maintien des prairies pour l'élevage ou l'agroforesterie, qui, a priori, peuvent permettre d'augmenter augmenter justement la productivité tout en conservant les ressources. Donc ça paraît assez intéressant. On en a parlé dans le cadre de la COP21 et de la COP22. Mm-hmm. C'est un ensemble de chercheurs justement en agronomie qui le défendent encore il y a quelques jours dans un article du Monde. Donc je ne sais pas si Pierre.
Oui, non, mais moi je suis favorable à toutes les formes d'agriculture. Là où je suis moins favorable, c'est de priver certaines formes du progrès technique.
Mais ça notamment, peut être aussi une forme de progrès.
Notamment sur les semences. Hein? Je pense que tout ce qui permet, si on parle de l'agroforesterie, il est fort probable, et c'est la même chose pour l'agriculture biologique, que les semences les plus adaptées à l'agroforesterie, ou à l'agriculture biologique, ou à la culture des céréales dans la bosse, ce ne sont pas les mêmes. Mm-hmm. Mais toutes méritent d'être améliorées. Il sera extrêmement difficile de dire « je reprends ce qu'il y avait autrefois » pour faire aussi bien que ce qu'on pourrait faire en les modifiant. Moi, c'est ça qui m'ennuie.
C'est-à-dire qu'on peut tenir ce discours-là et en même temps critiquer certains grands groupes d'agroalimentaires qui rendent leurs semences stériles pour forcer les agriculteurs à racheter d'une année sur l'autre des semences plutôt que d'utiliser des semences naturelles.
Ça mérite un tout petit développement.
Bien sûr.
Votre remarque.
Pierre Feillet.
Il y a eu une époque où il y avait un projet d'introduire un gène qu'on appelait le gène Terminator pour effectivement rendre les plantes stériles. Aujourd'hui, il n'existe pas de semences transgéniques qui soient stériles. Simplement, il existe, et c'est le cas du maïs, des semences de maïs, et c'est vrai à la fois pour les plantes transgéniques que pour les maïs hybrides qui sont cultivés en France depuis les années 50. Il est bien préférable de réacheter de la semence équivalente à celle que l'on avait, plutôt que de replanter les semences que l'on a récoltées, parce que par un phénomène que les biologistes connaissent bien, qui s'appelle l'effet d'hystérésis, le rendement va aller en baissant. C'est-à-dire que si un agriculteur, il peut très bien ressemer ses grains de maïs qu'il a récoltés, ils vont pousser, ils ne sont pas du tout stériles, mais les rendements vont être très inférieurs parce qu'ils ne sont pas hybrides. Alors là, c'est un petit peu long à développer. Ce qu'on sait simplement, c'est que quand on croise, dans le cas du maïs, deux géniteurs, un parent, un pâle et une femelle, d'origine différente, le fils est beaucoup plus énergique, beaucoup plus vigoureux, plus productif que ne sont les plants originaires soit du père, soit de la mère.
Est-ce que, pour conclure vraiment en un mot sur cette question, est-ce qu'il n'y aurait pas tout de même un bénéfice à responsabiliser ou à donner ou à mettre entre les mains des agriculteurs, que ce soit dans l'agriculture intensive de type occidental ou dans l'agriculture vivrière dans les pays en voie de développement, la possibilité de gérer leur propre stock de semences sans avoir à chaque fois à passer à la caisse et à les obliger systématiquement à racheter leur récolte d'une année sur l'autre. En quelques mots, Pierre.
Dans le cas du blé, qui n'est pas une plante hybride, il n'y a aucun problème. S'ils ressèment les blés qu'ils ont récoltés, ils auront quasiment les mêmes rendements. Dans le cas du maïs, j'ai essayé de vous expliquer, ça ne serait pas le cas. Mm-hmm. Mais il faut savoir aussi que pour améliorer la productivité, la qualité d'usage, le plaisir, la qualité du pain, par exemple, les sélectionneurs sont des industriels qui dépensent de l'argent et il faut peut-être un jour arriver à les rémunérer. Voilà, donc c'est le débat. Alors aujourd'hui, un agriculteur a parfaitement le droit de ressemer des plantes transgéniques. Il a parfaitement le droit de ressemer des plantes conventionnelles, mais il devra payer un tout petit quelque chose, variable suivant les pays, à l'obtenteur.
Control, look at my curvaceous cousins, models can't compete. I am a woman,
Give Me the Food de Miss Platinum. C'est le choix de notre réalisatrice Elisabeth Niro. Il est déjà 16h40. Nous parlons de l'avenir de la nutrition pour l'ensemble d'une humanité qui serait passée à 10 milliards d'individus à l'horizon 2050. Nous sommes toujours en compagnie de Céline Lenné, fondatrice d'Alim' Avenir, et Pierre Feillet, directeur de recherche émérite à l'INRA. On a beaucoup parlé à l'instant de l'option que j'appelais techniciste, mais en tout cas de la recherche en agronomie et de ce que la recherche en agronomie pouvait faire pour apporter des solutions à cette nécessité, à cette nécessaire augmentation de la production agricole pour nourrir l'humanité. On va regarder une autre solution. Bonjour Antoine Beauchamp.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Vous êtes allé visiter une start-up qui répond au doux nom d'Agricool et qui veut produire des fruits et des légumes en ville, dans un environnement 100% contrôlé.
Oui, j'ai rencontré Guillaume Fourdinier, qui est avec Gonzague Gru à l'origine d'Agricool. Ce sont deux fils d'agriculteurs qui habitent en ville et ils en avaient un peu assez de manger des fruits et légumes sans saveur. Du coup, ils se sont demandé comment ils pourraient cultiver en ville des fruits et légumes qui leur plairaient au goût et qui auraient les mêmes qualités que les fruits et légumes qui poussent en pleine terre. Du coup, ils se sont rendus compte qu'avec un principe simple et très ancien, l'hydroponie, on pouvait faire pousser des légumes et des fruits sans avoir besoin de terre et avec une consommation d'eau très réduite. Alors, ils ont commencé par faire pousser des fraises chez eux et l'idée leur est ensuite venue de passer à une échelle supérieure. Aujourd'hui, cette jeune entreprise, donc Agricool, compte 30 salariés et c'est dans des containers de 35 mètres carrés dont l'atmosphère est contrôlée par ordinateur qu'ils font pousser hors sol et à la verticale 3600 plants de fraisiers en attendant de cultiver d'autres types de fruits et légumes. Les avantages de cette méthode sont très nombreux, comme vous allez l'entendre, et ça pourrait peut-être permettre à l'avenir de répondre à quelques problèmes de sécurité alimentaire.
Donc Agricool, c'est une start-up qu'on a créée il y a un peu plus d'un an et qui a pour but de fournir des fruits et légumes qui soient cultivés sans pesticides et qui soient meilleurs, parce qu'en fait on est fils d'agriculteurs et qu'on a grandi avec de bons fruits et légumes et qu'on a bien envie qu'il y en ait plus en ville. Et l'objectif, c'est bien évidemment du coup de pouvoir nourrir la planète avec des fruits et légumes sains et qui soient bons. En fait, on s'est rendu compte que pour que ça fonctionne, il fallait tout simplement pouvoir produire là où on vivait. Et comme la plupart des gens vivent en ville, et ben, il faut produire en ville. Et pour être très productif en ville, il faut un peu se creuser la tête. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de transformer un conteneur et d'en créer un paradis pour les fruits et légumes, quoi. Donc en fait, ici, on a ce qu'on appelle la factory chez Agricool. Donc il y a 1500 m² d'entrepôt en effet. On a deux parties. On a une partie ingénierie où on conçoit les containers, on va dire, du futur. Donc c'est les prototypes suivants. Et puis il y a une partie agronomie où on va tester la meilleure manière de faire pousser les fruits et légumes, donc en intérieur, donc meilleur substrat, température, lumière, taux de CO2, etc. Et voilà, ben on est vraiment en plein cœur du SAS de notre cool-tainer. Donc en fait, ici dans le SAS, on a finalement une cuve avec l'eau, les nutriments, etc. Et puis on a toute la partie connectivité du cool-tainer. Et donc en fait, le principe d'un cool-tainer, c'est très simple, c'est que on a un conteneur qui est fermé dans lequel on va reproduire l'ensemble des conditions idéales pour la plante. Donc meilleure température, meilleur taux de CO2, meilleure hygrométrie, meilleur circuit d'irrigation, etc. L'objectif, c'est vraiment de fournir un environnement pour la plante qui soit idéal. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre la plante et la mettre dans un environnement où on ne sait pas si ça va être bien comme dans la nature, on prend la plante, on étudie vraiment la physiologie de la plante et on dit qu'est-ce qu'elle a besoin exactement pour qu'elle se développe au maximum et qu'elle donne le meilleur d'elle-même, quoi. Donc c'est ce qu'on fait. Donc on a des murs végétaux pour gagner en espace, en fait. Donc il y a 4 murs végétaux dans la longueur du conteneur. Il y a 4000 plants. Résultat, aujourd'hui, avec un conteneur comme ça, on est capable d'être 120 fois plus productif qu'en pleine terre, tout simplement, parce qu'on va produire de manière stable toute l'année, parce qu'on a plus de plants, etc. Et puis surtout, on peut produire sans pesticides, parce qu'en fait, on maîtrise l'environnement. Là, on voit, là, on est dans le sas fermé, on peut pas rentrer à l'intérieur, il n'y a pas d'apport de maladies potentielles, etc. On filtre tout, l'air, etc. Donc pas besoin de pesticides. Et puis, on utilise 90% moins d'eau, parce qu'en fait, on a un circuit fermé, on entend l'eau qui revient. Généralement dans une serre ou dans... Enfin, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on envoie de l'eau, des nutriments, des engrais, etc., bah, tout va dans le sol après. Nous, tout revient et en fait, on a une mise à jour en permanence de la solution qui fait que finalement, on utilise 90% moins d'eau et de nutriments. Et puis, on a 100% d'énergie renouvelable parce qu'en fait, c'est clair qu'on a des LED. C'est une grosse technologie complexe à travailler parce qu'on reproduit le spectre et l'intensité idéale pour le fraisier.
Et des LED, donc c'est des diodes électroluminescentes.
Exactement, des diodes électroluminescentes pour justement apporter la lumière qui permet à la plante de faire sa photosynthèse.
Là, on est devant des plants de fraises qui ont l'air plutôt en bonne santé, même si c'est la fin de la saison, et il n'y a pas de terre.
La Terre, finalement, ça serait vraiment une problématique importante pour nous, qui ne serait pas spécialement intéressante à gérer, pour plusieurs raisons. Tout simplement, il faudrait ramener des camions de terre tout le temps pour la changer. Ensuite, qui dit terre dit mauvaise herbe, dit herbicide. Et en fait, nous, on reprend un principe qui est l'hydroponie, qui a été beaucoup décrié parce qu'en fait, elle est très mal utilisée aujourd'hui. Mais bon, on peut penser un peu plus poétiquement au jardin de Babylone ou à des endroits comme ça. C'est tout simplement le fait que la plante peut se nourrir simplement avec les nutriments qu'il y a dans l'eau. Donc on gère une solution d'eau et de nutriments avec un circuit fermé comme ça, qui passe dans un substrat qui est inerte, qui est juste là pour maintenir la plante, mais voilà, qui n'est pas de la terre.
Donc les racines de ces fraisiers-là sont dans l'eau?
Elles sont dans l'eau, évidemment, ouais, complètement.
Si on devait comparer en termes de productivité, un conteneur et un champ?
35 mètres carrés de conteneur, c'est 4000 mètres carrés de pleine terre.
Et en termes de...
Donc ça fait 120 fois plus, quoi. 120 fois plus au mètre carré. C'est pas intuitif. Ça l'a jamais été, ça l'est pour personne. Je veux dire, quelqu'un qui regarde et qui dit, bah voilà, il y a des LED, on est dans un conteneur, c'est pas intuitif. La première chose qu'ils disent, c'est forcément, c'est beaucoup moins naturel, etc. Et finalement, nous, notre réponse à ça, c'est que l'agriculture, ça n'a jamais été quelque chose de naturel. À partir du moment où on a décidé qu'on allait faire un carré de 100 mètres par 100 mètres, qu'on allait retourner avec un tracteur et qu'on allait mettre la même espèce, etc., c'est pas naturel. Donc, finalement, nous, notre positionnement, c'est de dire, oui, mais voilà, la société a évolué. Aujourd'hui, on est beaucoup plus citadins. Mais voilà, on a besoin de trouver un moyen de cultiver des fruits et légumes qui soient sains, meilleurs, de manière écologique. Et il faut passer par des méthodes non intuitives.
Est-ce que votre innovation peut s'inscrire dans plus de sécurité alimentaire? Ce qu'on appelle la sécurité alimentaire, c'est pouvoir alimenter un plus grand nombre d'habitants de la planète.
Bah complètement, parce que si on pense aux solutions actuelles, on a un débat permanent entre des Monsanto & Co. qui vont dire on peut pas s'en sortir sans OGM et sans pesticides, etc. De l'autre côté, on a des José Bové & Co. qui vont vous dire qu'il faut déménager en Corrèze et que tout le monde devrait arrêter de consommer, etc. Bon, évidemment, chacun a son point de vue, mais c'est des points de vue assez politiques et philosophiques, finalement. Nous, on apporte une solution qui, finalement, permet de ne pas utiliser de pesticides, d'être assez productif pour en mettre partout. Donc voilà, après, chacun a son point de vue, mais je pense que si ça se multiplie, ça peut en effet permettre de canaliser cette augmentation. Et surtout, moi, je trouve qu'il y a un débat intéressant à lancer, c'est que ça peut permettre de faire reposer le sol, parce que justement, on n'utilise pas de terre, et que pour nous, c'est pas du tout un problème, c'est plutôt une opportunité. Si on pouvait replanter un peu de forêt autour des villes, parce que tout simplement, on a pu mettre des milliers de conteneurs qui produisent des fruits et légumes de la ville dans les endroits qui sont perdus, je pense qu'on aura pas mal gagné en termes de, justement, de biodiversité, de nature cette fois-ci à proprement parler.
À qui vous allez destiner ces conteneurs? Est-ce que vous avez déjà des partenaires potentiels, des villes qui sont intéressées?
C'est une mission qui touche tout le monde en fait, donc on va évidemment toucher directement les collectivités, les mairies, etc. Mais on va aussi toucher, je sais pas, des entreprises qui ont envie d'avoir des fruits et légumes pour leurs salariés. On va toucher des particuliers qui ont envie de se lancer dans un nouveau métier et de devenir ce qu'on appelle cultivateur, donc produire directement dans des conteneurs et distribuer. On va toucher des distributeurs qui vont pouvoir mettre, je sais pas, des supermarchés, etc., qui vont pouvoir mettre un conteneur derrière chez eux sur leur parking et vendre directement. Voilà, on ferme pas les portes. Simplement, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y aura besoin de 3 conteneurs pour un équivalent temps plein en termes de travail. Parce qu'on n'est pas un loisir, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment une solution d'agriculture et on crée des agriculteurs en faisant ça. Maintenant, voilà, on est ouvert aujourd'hui à toutes les réflexions avec chacun.
Voilà le reportage chez Agricool. L'hydroponie en conteneur, est-ce que c'est la voie médiane entre Monsanto et José Bové, comme on vient de l'entendre, Céline Lenné?
Moi, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, ça fait partie des tendances que j'étudie dans le cadre de Vigie Alimentation. J'étudie une dizaine de tendances émergentes et effectivement, tout ce qu'on appelle aussi les fermes verticales, un peu high-tech, qui sont basées soit sur l'hydroponie, soit sur l'aquaponie, parce qu'il y a des systèmes qui fonctionnent de la même manière, mais en plus avec l'élevage de poissons en cercle aussi, entre guillemets, vertueux. Donc, c'est effectivement très intéressant pour toutes les raisons qu'on a entendues. Après, je mettrai quand même quelques bémols parce que moi, j'ai toujours un regard un petit peu aussi critique par rapport à ces tendances. Bien sûr, déjà, on peut dire que ça ne permet pas de cultiver tous les types de produits. Et donc là, c'est vraiment une question importante si on s'intéresse à la sécurité alimentaire, parce qu'aujourd'hui, on parle surtout de fruits et légumes. Dans le cadre d'Agricool, il s'agit de fraises. Il y a beaucoup d'initiatives déjà qui sont développées aux États-Unis, en Amérique du Nord, au Canada ou même au Japon ou ailleurs. C'est essentiellement des salades, des herbes aromatiques, il y a quelques légumes. Aujourd'hui, on ne sait pas encore faire pour les céréales. Et le Pierre l'a rappelé tout à l'heure, les céréales, c'est quand même la majeure partie de notre alimentation. Donc, pour résoudre la question de la faim dans le monde, ce n'est pas encore ça, d'autant plus que c'est des solutions qui sont très coûteuses, qui ont aussi un problème, c'est qu'elles consomment énormément d'énergie, même si aujourd'hui, il y a des systèmes qui se développent avec à base d'énergie renouvelable. Et il y a donc un coût d'investissement qui est très élevé. Donc, pour le moment, c'est plutôt une réponse pour les consommateurs qui cherchent à se rapprocher de la production, donc des circuits courts, des produits plus frais. Ça peut aussi répondre aux besoins de réduction du gaspillage. Donc ça aussi, le gaspillage, on n'en a pas parlé, mais c'est un des leviers vraiment très importants, par contre, pour résoudre ces problèmes de sécurité alimentaire.
Entre 30 et 60% des produits agricoles
Sont
jetés.
C'est c'est déjà
30%, personne n'en sait rien.
Ouais. Moi, c'est les chiffres que j'ai lus en prévention.
Oui, il n'existe qu'une seule publication qui date de 2012, qui annonce 30%, ce sont des travaux de Suédois, et qui disent en conclusion, surtout ne retenez pas nos chiffres parce que nous ne sommes pas sûrs de notre méthodologie.
Bon, alors, je retire les 30%.
Chiffres, simplement, on a un chiffre en France, plus récent, 18% en France. Le dernier chiffre de l'ADEME, c'est 18%.
On peut tomber en tout cas d'accord sur le fait que limiter le gaspillage, de toute façon, ne peut être que bénéfique le fait que ces produits alimentaires tombent dans la bouche des gens et pas dans les poubelles. Voilà. Céline Néné, oui.
Oui, alors dans les deux leviers que je voulais quand même mentionner, parce que tout à l'heure on parlait des techniques pour augmenter la production et on part tout de suite sur des choses assez technicistes, même si c'est un petit peu péjoratif de dire ça. Mais il y a d'autres leviers pour résoudre l'équation. C'est aussi de réduire l'augmentation prévue de la demande. Tout à l'heure, je disais le scénario tendance. C'est plus 70% à l'horizon 2050. Ça se base donc sur l'occidentalisation des régimes alimentaires.
Plus 70% de production alimentaire.
De production agricole. Alimentaire, voilà, c'est ça. Mais il y a d'autres scénarios qui tablent sur une augmentation, bien sûr, mais une augmentation moins forte. Et ce qui varie, c'est la part des protéines animales et notamment la part de la viande dans les régimes. Et ça, c'est pas du tout sûr, effectivement, qu'on aille vers cette convergence. D'autant plus que les hypothèses qu'il y a derrière, c'est qu'il y a une élévation des niveaux de vie. Et donc les personnes se mettent à manger comme la moyenne aux États-Unis ou ailleurs, donc c'est des quantités quand même qui sont très élevées, et qu'on voit que même dans les pays développés, on est en train justement de changer nos habitudes de consommation, on est en train justement de réduire notre consommation de viande. Et les pays émergents, qui bien sûr ont suivi le chemin assez rapidement, ont fait leur transition alimentaire très rapidement, peuvent aussi faire la seconde transition alimentaire rapidement, et en tout cas ne pas forcément suivre le même parcours que les pays développés.
Et donc la diminution des régimes carnés, ce sera le mot de la fin pour le moment, puisque comme il est déjà 16h52, bientôt 53, et comme chaque mercredi pour conclure l'émission, la parole est à la nouvelle génération de chercheurs, un ou une jeune scientifique qui vient nous présenter toutes les semaines ses travaux de recherche en 4 minutes tout juste. Aujourd'hui, c'est Nicolas Goy qui se prête au jeu. Bonjour Nicolas.
Bonjour, merci de l'invitation.
Vous êtes en 3e année de doctorat à Télécom Paris Tech, vous travaillez sur une méthode d'apprentissage pour la détection d'anomalies. Bienvenue à la recherche Montre en main, c'est à vous.
Bonjour. Donc, ma thèse s'intitule plus exactement « Méthode au pluriel d'apprentissage statistique pour la détection d'anomalies ». Donc, il y a donc deux termes clés, détection d'anomalies et apprentissage statistique. Donc, la détection d'anomalies, ça consiste à trouver des observations s'écartant d'un comportement majoritaire qu'on appelle comportement normal. Donc, c'est un domaine souvent traité avec des méthodes statistiques où on suppose que ce qu'on observe dépend d'une loi de probabilité, c'est-à-dire contient une part de hasard. La détection d'anomalies a de nombreuses applications, comme la détection d'intrusions dans un réseau informatique, la détection de fraude à la carte bancaire, ou encore la prévention de pannes sur un moteur d'avion. Donc, l'apprentissage statistique, quant à lui, donc dit aussi l'apprentissage automatique, en anglais « machine learning », a pour but la construction d'un algorithme, c'est-à-dire l'élaboration d'une méthode, d'une suite d'instructions à destination de l'ordinateur. Cet algorithme va être utilisé par la machine pour apprendre sur un jeu de données d'entraînement les éléments nécessaires pour la tâche qu'on lui a attribuée. Donc ces éléments peuvent être une structure, un arbre de décision, une forme générale des données. Après l'étape d'entraînement de l'algorithme, celui-ci utilise l'information qu'il a apprise pour traiter de nouvelles données. Il y a donc deux étapes. Une étape d'entraînement et une étape d'utilisation. Donc, dans le cadre de la détection d'anomalies, les données d'entraînement sont des observations normales, c'est-à-dire issues d'un comportement majoritaire. L'algorithme va chercher à apprendre une caractéristique de ces données normales. On peut imaginer des données issues de capteurs posés sur un moteur d'avion. Donc dans ce cas-là, la dimension de l'espace des observations, c'est le nombre de capteurs. On est souvent amené à travailler dans un contexte de grande dimension, avec un très grand nombre d'observations, soit dans un contexte qu'on désigne aujourd'hui par l'anglicisme « big data ». Les méthodes sur lesquelles je travaille se focalisent sur la structure de dépendance des données normales. Dans l'exemple du moteur d'avion, on va chercher à apprendre comment interagissent nos capteurs quand ils prennent de grandes valeurs. Par exemple, l'algorithme peut noter que le capteur numéro 1 est habituellement grand avec les capteurs numéro 3 et numéro 5, ce qui peut représenter le fait que la température du moteur est grande en même temps que la vitesse de rotation et que la fréquence de vibration. Une fois que notre algorithme est entraîné, une fois qu'il a appris la structure de dépendance de ses capteurs, il est capable de détecter un comportement nouveau, donc suspect. La force de l'apprentissage automatique est qu'on n'a pas besoin de donner des règles physiques à l'algorithme. On n'a pas besoin de lui apprendre qu'il est normal que la température du moteur soit grande en même temps que la vitesse de rotation et que la fréquence de vibration. Notre algorithme est nul en physique, mais il peut être meilleur que le physicien pour détecter l'anormal car il a appris toutes les combinaisons de capteurs qui peuvent être grands ensemble dans un régime normal. Il peut très bien en avoir des milliers pour représenter convenablement la structure de dépendance du problème. Si la machine observe tout à coup une combinaison de capteurs grands qu'elle n'a pas observé lors de son entraînement, alors la machine poussera son cri d'alarme. Bon, le but de mon travail est tout d'abord de construire l'algorithme qui sera l'outil à travers lequel la machine pourra apprendre ces combinaisons de capteurs usuellement grands ensemble. Et une fois que cet algorithme est développé, le but est alors de dériver une étude statistique du problème pour avoir des garanties théoriques attestant de la qualité de l'algorithme. Concrètement, il faut prouver qu'avec grande probabilité, la méthode fonctionne sous des hypothèses réalistes. Bref, il faut faire des maths.
Merci beaucoup Nicolas Goua pour cette présentation. Et puis je voulais dire un dernier mot à propos de notre sujet du jour avec nos deux invités, puisque c'est le festival d'ailleurs de l'alimentation du 1er au 4 décembre à la Cité des Sciences. Je voulais également signaler ce livre, 10 questions à Pierre Feillet, comment bien se nourrir en respectant la planète et notre santé, un livre qui est publié par l'Académie de Technologie et EDP Sciences pour un progrès raisonné, choisi et partagé. Merci beaucoup à vous trois. Merci Nicolas d'être venu nous présenter vos travaux de recherche. Merci à Céline Lenné et à Pierre Feillet. Si vous voulez retrouver la recherche montre en main, les travaux de Nicolas Goua ou nos échanges sur l'avenir de la nutrition de la planète, il suffit de retrouver l'émission La Méthode Scientifique sur le site de France Culture pour le podcaster tant que vous voulez, franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Eve Etienne, Léo Quentin, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne. À la réalisation, Elisabeth Miro. À la technique aujourd'hui, Jacques Hubert. Et au droit d'auteur, Victor Buton. Demain, le cœur a ses raisons, le pari qui conduit à notre raison de croire en Dieu, les pensées ou l'apologie du christianisme, tout ceci est l'héritage de Blaise Pascal, mais nous parlerons de Pascal, mathématicien, probabiliste et physicien, bref, de l'héritage scientifique de Blaise Pascal. Dans un instant, la série documentaire poursuite des portraits de militants en politique avec Arnaud Contreras et Perrine Kervan. On se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.